Bonjour, nous allons ouvrir nos Bibles dans la lettre de Jacques au chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Amen. Mettez la parole en pratique. Jésus dit un jour, « Je suis la parole ». Alors, on pourrait interpréter ce texte de cette manière-là. Mettez Jésus en pratique. Jésus qui vit en vous. Mettez-le en pratique. Laissez-le pratiquer. Laissez-le agir au travers de vous. Celui-là, celui qui fait ainsi, sera heureux, sera en marche, ira de l'avant. Vous vous rappelez que le mot heureux, c'est le mot chéri qui signifie en marche sur une voie de rectitude. Il ira de l'avant, celui qui met en pratique, celui qui pratique Jésus, celui qui pratique la parole. Alors, qu'est-ce que le christianisme quand il est vécu? C'est une question que je pose là parce que très souvent, quand je témoigne aux gens, quand je leur parle, alors ils essayent de me rassurer en me disant « Oh, mais vous savez, je suis très croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Alors, je vais essayer de clarifier cette idée. Qu'est-ce que c'est qu'un pratiquant? En tout cas, ce n'est pas une personne qui se contente d'aller à l'église, même régulièrement. Mes frères et sœurs, le véritable christianisme, c'est un code de valeurs éthiques et morales. C'est une philosophie, un système théologique et métaphysique qui s'appuie sur un culte. C'est un peu compliqué tout ça comme définition, mais il y a besoin d'avoir une définition précise. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un culte? Un culte, c'est avant tout l'hommage qu'on rend à Dieu. Et c'est une vénération immodérée pour Dieu. C'est l'admiration pour Dieu, l'approbation systématique de notre Dieu, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il est. Et enfin, c'est une cérémonie par laquelle on apporte notre hommage et notre admiration, notre vénération, notre approbation à Dieu. Mais ce n'est qu'une cérémonie. Nous adorons Dieu, nous lui rendons un culte par une cérémonie, le septième jour de la semaine, d'accord, mais ce n'est que le culte sous forme de cérémonie à un moment précis et non le véritable culte. Parce que si le culte dure environ une heure, en tout cas au sanctuaire en général c'est une heure dix, une heure vingt. Normalement, bibliquement, il doit durer 168 heures par semaine, dans la réalité. Durant 168 heures par semaine, nous adorons Dieu et la philosophie qu'il nous a enseignée, parce qu'il y a une philosophie, une sagesse. Pendant 168 heures par semaine, nous adoptons notre vécu au système théologique. C'est une théocratie, le royaume de Dieu est une théocratie. Eh bien, nous adoptons notre vécu au système théologique que Dieu nous a donné dans les Écritures. Et 168 heures par semaine, nous cherchons à nous identifier à notre Seigneur en cherchant qui il est, ce qu'il veut, comment il pense, comment il agit, comment il réagit. Et nous nous adaptons notre vie pratiquement selon ses principes. On cherche à savoir les principes, quels sont ses principes. Et on s'interroge sur la conduite que nous devons avoir pour lui être agréable. C'est ça, le côté métaphysique de la chose. Nous cherchons à comprendre quelles sont les lois divines qui permettent de bien vivre dans la présence de Dieu. C'est cela, n'est-ce pas? Et puis, ensemble, entre frères et sœurs, dans le respect, nous cherchons à comprendre quelles sont les lois divines qui nous permettent de vivre ensemble, dans le respect, dans la soumission volontaire, dans le service des uns et des autres, et ça c'est 168 heures par semaine. 168 heures par semaine, nous faisons quoi? Nous rejetons les valeurs que le monde a perverties pour vivre les valeurs éthiques et morales qui permettent de fonctionner selon les règles du Créateur de toutes choses. Si on va contre ces lois, eh bien c'est évident qu'il va y avoir des pots cassés. Alors le véritable christianisme, c'est une science en fait. Parce que le christianisme véritable est fondé sur un texte qui contient des techniques destinées à comprendre notre nature, et puis aussi à nous guérir de nos maux. Les règles qu'on trouve dans ces textes, dans la Bible, ces règles sont si claires qu'elles ont fait tellement leur preuve, tellement souvent leur preuve, que j'ose appeler cela la philosophie chrétienne. Peut-être, je dis que cela peut être comparé à considéré comme une science exacte, par la vérification, par la mise en pratique. Alors, dans ce monde mortel, on vit toutes sortes de choses, et pas forcément des bonnes choses, et ça c'est dû au péché, à notre péché, au péché des uns et des autres, aux gens qui nous entourent, à leur négligence, à leur mauvaise volonté, ou à la nôtre. Mais dans la véritable Église de Jésus-Christ, un vrai disciple, il va trouver toujours quelqu'un de bienveillant qui va se pencher sur son problème et qui va l'écouter. Et puis, avec des textes, avec de l'intelligence, dans l'Église de Jésus-Christ, on va pouvoir expliquer le pourquoi. Par exemple, pourquoi une personne entretient des complexes d'infériorité? Pourquoi elle est déterminée, je ne sais pas, elle est dominée par la peur. On va voir pourquoi elle nourrit du ressentiment, pourquoi un tel est timide, pourquoi un tel est hésitant. Vous savez, tous ces comportements-là négatifs, ça ne se manifeste pas comme ça, sans raison. Il y a des raisons. Et la Bible nous parle de toutes ces choses. Les comportements reposent sur des motifs précis. Et c'est important de pouvoir identifier quels sont les motifs, pourquoi telle et telle personne réagit ou agit comme ça ou autrement. Et quand on parvient finalement à savoir pourquoi, eh bien on fait un pas important. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils sont timides, pourquoi ils sont pleins de ressentiment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ils ne savent pas. Dieu, par les textes saints, par les textes sacrés, par la parole de Dieu, par l'organisation de son Église, il permet que nous puissions avoir une bonne connaissance de nous-mêmes. C'est très important. Parce que c'est seulement alors qu'on peut aller plus loin. Si on ne se connaît pas soi-même bien, d'après ce que Dieu dit, je me souviens toujours de cette phrase de T.L. Osborne qui disait « Je suis ce que Dieu dit que je suis, mais qui suis-je ? Il faut le savoir. Ben, » c'est dans les Écritures qu'on trouve qui nous sommes. Alors quand on le sait, on peut aller plus loin et on va commencer un travail sur soi-même pour changer ce qui doit être changé, pour guérir ce qui doit être guéri, moralement, mentalement, spirituellement, même physiquement. Alors le pasteur est là, il y a les autres ministères et puis il y a des gens sages dans l'église et on va avoir recours, tous ces gens que vous allez trouver pour avoir des solutions, ils vont avoir recours scientifiquement et systématiquement à des thérapies qui sont basées sur la prière, sur la foi, sur l'amour. Et là, le christianisme intervient vraiment dans la vie entière. Vous voyez, je suis pas pratiquant. Ça veut dire quoi? Je suis croyant, mais pas pratiquant. C'est un non-sens, c'est terrible. Les gens qui disent ça ne se rendent pas compte. Comment ils nous apparaissent quand ils nous disent une telle chose? Comment, avec toutes ces recherches, après avoir recours scientifiquement et systématiquement à la thérapie de base dont je vous parlais tout à l'heure, on va pouvoir trouver comment, dans l'application intégrale de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, eh bien, comment nous allons pouvoir nous guérir. Mes frères et sœurs, je crois, je suis absolument convaincu de l'efficacité réelle des enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Un chrétien est donc un pratiquant. un pratiquant de l'enseignement de Jésus-Christ. Bien sûr, dans la pensée collective des gens de ce monde, quand ils nous disent « je suis croyant, mais je suis pas pratiquant », ils veulent dire par là « je suis croyant, mais je vais jamais à l'église ». C'est ça qu'ils croient que ça veut dire ça. Mais être un vrai pratiquant, d'après ce que la Bible dit, c'est pas aller à l'église. On ne va pas à l'église, on est l'église. Les textes sacrés de la Bible sont notre outil de travail, qui nous promet, il y a des promesses extraordinaires, ce texte sacré nous promet de nous révéler ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Et tout est dans ce texte. Tout a été préparé par Dieu et pour ceux qui l'aiment. On trouve ça dans 1 Corinthiens 2, 9. Vous pourrez même le lire si vous voulez. 1 Corinthiens 2, 9, c'est un texte extraordinaire. Je vous le lis. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il a aimés, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui, donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et voyez, si nous avons cet esprit-là, alors à ce moment-là, entouré avec des personnes qui connaissent, eh bien, les Écritures, nous allons pouvoir trouver qui nous sommes, pourquoi nous agissons de telle et telle manière, qui est Dieu, parce que c'est bien. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Nous ne pouvons pas avoir notre Dieu, un Dieu à notre image, un Dieu que qu'on pense. Non, non, Dieu n'est pas comme vous pensez forcément. Il est ce qu'il dit qu'il est. Et il est ce qu'il dit dans la Bible, pas autre chose. Donc, tout est dans le texte sacré et Dieu a tout préparé pour ceux qui l'aiment. On vient de le lire. Si vous l'aimez, ben vous êtes pratiquant. C'est ça, vous comprenez? Je suis pas pratiquant, ça veut rien dire. Mes frères et sœurs, on n'est pas pratiquant si on va à l'église. Ça suffit pas. Maintenant, c'est nécessaire d'aller à l'église, mais c'est pas suffisant. Quand je dis nécessaire d'aller à l'église, c'est-à-dire il est nécessaire de se réunir pour écouter les enseignements. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est nécessaire aujourd'hui, alors que justement, maintenant nous sommes envahis par toutes sortes de traditions qui veulent plus rien dire, qui ont ôté la vie à tous ces textes, et bien maintenant Dieu est en train de rétablir, on a besoin de retourner à l'enseignement des apôtres, d'aller écouter les nouveaux apôtres, d'aller écouter les nouveaux envoyés de Dieu, parce que c'est au travers d'eux que les choses sont rétablies. Ces choses anciennes qu'on trouve dans les Écritures, mais elles sont rétablies par les nouveaux envoyés de Dieu. Après être nés de nouveau, il nous faut croire en Jésus-Christ, en son système de pensée, croire en Jésus-Christ. Mais ça veut dire croire dans son système de pensée. C'est croire dans l'application de ce système de pensée. Croire en Jésus, c'est pas simplement avoir une idée que voilà, il a existé, et puis bon, passe-moi le sel. Croyons de cette manière, et nous surmonterons les peurs, les haines, les sentiments d'infériorité, la culpabilité. Et puis, en croyant de cette manière-là, vous allez pouvoir venir à bout de toutes les difficultés sous toutes leurs formes. Parce que c'est entre les mains du Créateur de toutes choses que vous vous serez remis et vous mettrez à faire ce qu'il dit qu'il faut faire et les choses se rétabliront. Parce qu'il est un Dieu d'ordre et un Dieu d'harmonie. Et la victoire sur le mal, c'est à ce prix. C'est pas magique. C'est pas parce que vous êtes dans le désordre dans vos sentiments et que vous dites « Seigneur, mets de l'ordre, purifie-moi ». C'est pas comme ça que ça vient. Il y a un enseignement qui doit être donné, que vous devez recevoir et que vous devez pratiquer. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. C'est alors que vous serez heureux. C'est alors que vous serez en marche. C'est alors que vous progressez. Il n'y a pas de magie. Ça, c'est Mary Poppins, hein. Il n'y a pas de magie. Alors, bien sûr, Dieu est un Dieu des miracles. Et les miracles sont des miracles parce que, justement, ils ne sont pas très, très courants. Dieu veut que vous participiez à votre miracle. La victoire sur le mal est à ce prix. n'y a rien de magique. Et c'est très bien ainsi, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui a tout préparé ainsi pour ceux qui l'aiment. Être pratiquant, c'est vivre par Jésus et pour Jésus. Alors cette phrase-là, si vous la dites comme ça, être pratiquant, c'est vivre par Jésus et pour Jésus, c'est une phrase très jolie, très religieuse, genre phrase toute faite, voilà. Mais ça veut rien dire du tout si ce que je vous ai dit auparavant, dans les quelques 15 minutes qui viennent de passer, si ce que je viens de vous dire là, c'est faux. Cette phrase, être pratiquant, c'est vivre par et pour Jésus, si ça veut rien dire si ce que je vous ai dit avant est faux. Rien du tout. C'est de la poésie. Frères et sœurs, il faut que vous preniez le temps de vous arrêter chaque jour pour lire la Bible, pour prier, pour réfléchir, pour pouvoir vous présenter à Dieu, pour pouvoir lui présenter votre être tout entier dans une position de dignité qui puisse lui plaire. C'est ça, rendre un culte agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, êtes-vous pratiquants? Voyez, obéir ou désobéir à l'enseignement de Jésus et de ses envoyés, c'est ça qui va déterminer en grande partie le bonheur que vous connaîtrez dans votre existence mortelle. Depuis toujours, depuis que Mélodie est née, j'ai répété cela à tous les enfants dans la communauté, j'ai dit quand tu fais une bêtise, eh bien, il y a la tristesse qui vient dans ton cœur. Et quand tu fais quelque chose de bien, que tu obéis à papa, maman, eh bien, il y a la joie qui vient dans ton cœur. Pourquoi il n'y a pas la joie dans ton cœur? Eh bien, cherche. C'est parce que tu as désobéi. Alors, parce que tu as désobéi, quelqu'un t'a fait un reproche. Et alors, ça te vexe. Et alors, tu n'es pas heureux, etc., etc., etc. Il y a toutes sortes de raisons qui font. Mais de toute façon, ça vient toujours de soi, ça ne vient pas des autres. C'est nous-mêmes. Si tu désobéis, tu as la tristesse dans le cœur. Si tu obéis, tu as la joie dans le cœur. C'est le béaba. Et c'est bon pour nous aussi, parce que nous sommes des êtres humains. Même quand on est vieux, on est toujours des êtres humains. Hein, et on a besoin toujours de se rappeler, bon, voilà, maintenant je suis triste, il y a quelque chose qui ne va pas, mais où est la racine de ce mal? Il faut trouver. C'est toujours une désobéissance ou un mépris au sujet d'un commandement. Oh ben, je n'ai pas pensé que c'était si important que ça. Si on t'a dit de faire, c'est que c'est important. Être pratiquant, finalement, c'est aimer. Aimer Dieu, aimer son Église. Et notre amour, et ben, il est motivé par quoi? Par le contrôle de soi, par l'obéissance aux lois divines. Quand on se contrôle, eh bien, on se dit, bon, ben, je vais volontairement obéir, voilà, à Dieu, à l'Église, je vais par respect des autres, et puis alors l'altruisme et tout ça. Être pratiquant, on a compris maintenant que nous ne pouvons pas enfreindre les lois de Dieu impunément et être heureux. Si vous transgressez les lois de Dieu, regardez par exemple les gens de ce monde, ou alors même les chrétiens de nom disent, ah, le sida, c'est Dieu qui punit parce que voilà, les gens ont péché. C'est pas vrai. Mais si on enfreint les lois de Dieu, eh bien, on se punit soi-même. Parce que on casse des règles. Et alors, ça attire toutes sortes de choses. Parce que Dieu a créé le monde d'une certaine manière, on peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit. Si on fait, on peut faire, si vous voulez faire, faites. Si vous voulez faire mal, faites mal. Mais vous payerez. C'est embêtant, hein. C'est pas Dieu qui est méchant, c'est que vous n'avez pas fait attention aux bonnes lois que Dieu a données. Vous les avez méprisées, vous n'en avez pas voulu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas Dieu qui est méchant et qui punit. Ah ah ah, voilà, maintenant je te punis. Non, ça vient tout seul. C'est si vous sautez du dixième étage d'une tour, comme je dis souvent, vous pouvez être la personne la plus riche, la plus pauvre, la plus blanche, la plus noire, la plus intelligente, la plus bête, la plus chrétienne, la plus païenne, tout ce que vous voulez. Si vous sautez du dixième étage, vous allez vous rétamer en bas. Parce qu'il y a une loi. Et comme ça, on ne se jette pas des tours de 10 étages. Ni même des tours de 9. Hein? Non, on ne se jette jamais. Voilà. Hein, d'accord, vous avez compris? C'est pas pour vous embêter, c'est simplement que ça ne se fait pas, parce que si vous le faites, ben vous vous faites du mal à vous-même. Dieu nous a créés et il a placé dans notre être une boussole morale qu'on appelle la conscience. Et bien conscience que c'est pas bien de sauter du 10e étage. Voilà. Et lorsque vous n'obéissez pas, votre conscience se met en marche, et puis elle vous travaille, elle vous ronge, et puis alors là, pour certaines choses que vous allez faire, ça va engendrer des sentiments de culpabilité, des remords. Ça agit comme le témoin divin en vous. La conscience, elle va attester que la loi de Dieu est bonne. Alors vous allez essayer de l'étouffer, essayer de donner, mais j'ai des bonnes raisons de faire ce que je fais. Tu peux pas me comprendre. J'ai des bonnes raisons. Ah oui? Alors on peut faire taire, essayer de faire taire notre conscience, essayer de dire, mais avec les lois, Dieu, il n'a pas bien compris, puis aujourd'hui, on est au 21e siècle, ces lois ont été données il y a si longtemps, maintenant les choses ont changé, et là, li, et là, là, et tout ça. On peut, notre conscience ne peut ni, on peut pas la faire taire, et on peut pas non plus l'affaiblir. On peut que lui obéir ou lui désobéir, c'est tout. Alors, soit nous la combattons, soit nous l'embrassons. Être pratiquant nous apporte la confiance en nous-mêmes. Être pratiquant nous donne l'estime de soi. Voilà ce que c'est être pratiquant. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à méditer sur cela, et puis à pratiquer évidemment, mais aussi à enseigner ces choses à ceux qui disent je suis croyant, mais je suis pas pratiquant. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, et que Dieu m'aide aussi. Nous en avons tous besoin. On est tous à la même enseigne parce qu'on est tous dans cette condition mortelle. Et c'est pas parce qu'on a été gagnant jusqu'à aujourd'hui qu'on va le demeurer. Si on fait pas attention, boum. Amen. Merci Seigneur de bénir ces choses, que mes frères et sœurs puissent être réjouis et qu'ils puissent aller de l'avant et marcher de progrès en progrès pour la gloire de ton nom, pour leur bien-être intérieur, et aussi pour le bien-être de leur corps. Dans le nom de Jésus, amen.